Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'OTAN, qui est évidemment l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, je précisais tout de suite l'acronyme et comme ça ce sera fait, donc de l'OTAN, de ses dynamiques et de ses difficultés aussi, à quelques jours d'un sommet de l'organisation à Bruxelles qui s'ouvre lundi prochain, j'ai le plaisir de recevoir à distance deux spécialistes de l'OTAN qui sont situés d'ailleurs presque d'un bout à l'autre de l'étendue géographique de l'organisation. Donc tout d'abord Amélie Zima depuis Varsovie, post-doctorante au Centre de Civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie, auteur aussi et surtout d'un excellent Que sais-je, sorti un peu plus tôt cette année sur l'OTAN. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Alexandre Jublin, merci de m'avoir invité.
Et à l'autre bout de la carte otanienne, en quelque sorte, nous sommes aussi en ligne avec Pierre Morcos, diplomate français actuellement détaché au CSIS, le Center for Strategic and International Studies, situé à Washington, qui est donc l'un des principaux think tanks américains sur les questions internationales et stratégiques. Donc bonjour à vous aussi, Pierre.
Bonjour Alexandre.
Et puisque vous êtes du ministère des Affaires étrangères, je vais préciser à toutes fins utiles qu'évidemment vous vous exprimez en votre nom propre et que vous n'engagez pas donc l'ensemble de la diplomatie française par vos propos, ce qui est évidemment très dommage, on espérait que vous feriez quelques déclarations fracassantes pour les équilibres de l'Alliance, mais ce sera donc pour une autre fois. Alors, c'est donc une émission qui répond évidemment à une actualité, qui est celle du sommet de la semaine prochaine, mais aussi à d'autres nouvelles ou actualités récentes autour de l'OTAN. Par exemple, les déclarations successives depuis quelques années d'un certain nombre de chefs d'État de l'organisation qui n'ont pas hésité à afficher sur le devant de la scène les tensions dans l'OTAN. Par exemple, Donald Trump qui a rué régulièrement dans les brancards autour de questions budgétaires sur lesquelles on reviendra. Ou encore Emmanuel Macron qui avait fameusement dit en 2019 que l'organisation était en état de mort cérébrale. Et il y a périodiquement donc des événements qui amènent à poser des questions sur l'état de cette alliance, notamment un certain nombre de tensions autour de la Turquie, par exemple, de ses initiatives militaires, de son évolution politique et des matériels qu'elle achète, disons, même si, évidemment, il n'y a pas qu'elle. Donc il y a tout ça, mais je me suis fait au fond la réflexion qu'on n'avait pas vraiment fait d'émission explicitement sur l'OTAN, et c'est donc probablement utile de s'y attarder un moment et de remonter un peu dans le temps pour poser cette évolution sur la longue durée. Alors, on n'a peut-être pas besoin de remonter jusqu'en 49 et à la création de l'organisation, mais un moyen d'en parler serait peut-être de commencer par l'autre bout de la guerre froide et le début des années 90, où a eu lieu évidemment l'effondrement du bloc soviétique, et où donc la raison d'être de cette organisation, qui était originellement de faire pièce au pacte de Varsovie, avait un peu disparu. On peut d'ailleurs rappeler à cette occasion la formulation qu'avait eu le premier secrétaire général de l'OTAN sur le but de l'organisation, Lord Dismay, qui était « Keep Russians out, Americans in and Germans down », donc garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands à terre. Évidemment, ça a largement évolué pour ce qui est de l'Allemagne avec la séparation puis la réunification du pays, mais on pourrait argumenter que les deux autres termes exprimaient très bien quelque chose de la guerre froide, voire peut-être pourraient être encore d'actualité. Alors, je reviens à ces années 1990 et à la fin de la guerre froide, justement, et pour poser la question un peu abruptement, mais c'est une manière d'entrer dans le problème, Amélie Zima, puisque vous venez de publier cet excellent Que sais-je, qui revient largement sur toute cette histoire, pourquoi est-ce que l'OTAN n'a pas disparu à ce moment-là?
Alors, effectivement, il est intéressant de revenir sur la décennie des années 90 pour comprendre la pérennité de l'OTAN suite à la disparition de l'URSS. Et en fait, au début des années 90, l'OTAN était confrontée à plusieurs défis. Il s'agissait de penser la fin de la bipolarité, il s'agissait aussi de penser la fin d'une conflictualité qui était centrée uniquement sur, principalement sur l'affrontement interétatique. Et donc on a eu tout un travail de relégitimation de l'organisation qui passe par plusieurs stratégies, donc des stratégies qui visent à nouer des liens avec d'autres organisations comme l'Union européenne, et des stratégies aussi qui visent à la fabrique de nouvelles compétences, comme par exemple la gestion de crise, les missions de maintien de la paix, donc voilà, aller dans des domaines qui ne sont pas des domaines spécifiquement OTAN initialement.
Mais est-ce que ça a été évident pour tout le monde? Enfin, je veux dire, on peut reprendre peut-être les débats qui étaient là au début des années 90, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment songé à le dissoudre avec l'idée que voilà, on arrivait dans un monde multipolaire et qu'on n'avait peut-être pas besoin de ce gros engin qui était fait pour lutter explicitement contre l'Union soviétique et ses alliés? Ou est-ce que, bon voilà, y a une alliance, c'est suffisamment compliqué de monter une alliance pour que quand on en a une qui fonctionne à peu près, on la laisse pas tomber en route?
Effectivement, il y a eu des débats, mais les débats sur la pérennité de l'alliance, en fait, ont été en soi assez courts, puisqu'il a été prouvé qu'en fait, l'alliance ne sert pas uniquement à la défense de ses membres, mais elle sert aussi à maintenir cette cohésion politique entre eux, et que comme elle est basée en fait sur un système de valeurs qu'elle ne nomme pas d'ennemis, hein, il n'y a pas d'ennemi qui est nommé dans le traité fondateur de l'alliance, le traité de Washington, et eh bien finalement, elle peut poursuivre son activité, même si l'URSS s'est disloquée, même si le pacte de Varsovie a disparu. Après les débats, effectivement, il y en a eu sur le est-ce que l'OTAN en fait n'allait pas perdre sa raison d'être aussi et diluer un peu trop ses compétences en finalement s'immisçant dans différents secteurs comme justement la gestion de crise ou le maintien de la paix. Est-ce qu'elle ne devrait pas rester finalement sur son cœur de métier qui est la défense territoriale? Est-ce qu'on n'allait pas faire une alliance qui allait être trop politique finalement et qui allait perdre ses capacités, ses compétences et en fait l'efficacité dans le domaine pour lequel elle avait été créée.
Non, mais alors on peut dire que c'est une organisation qui, du coup, vous y avez fait référence, et s'est trouvé d'autres rôles, notamment les inspections, donc notamment sur les arsenaux d'armement conventionnel en Europe dans le cadre du traité FCE. Mais on peut dire aussi qu'il y a eu un shift donc, tout au long de la décennie 90, et que donc cette organisation, qui était originellement axée sur les armements lourds, notamment nucléaires, s'est largement réorientée vers des capacités d'intervention rapide qui, de fait, ont été utilisées. Alors d'abord au Kosovo en 99, on en reparlera parce que c'est important dans l'évolution des relations avec la Russie, mais aussi ensuite, évidemment, après le 11 septembre, dans l'invasion de l'Afghanistan, puis dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle globale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce reprofilage, disons, en quelque sorte, de l'OTAN, progressivement? Alors on reparlera évidemment des évolutions de la structure, mais même d'un point de vue des capacités simplement militaires. Comment est-ce qu'on est passé en quelque sorte au chapitre suivant à l'intérieur du fonctionnement de l'Alliance? Amélie Zema?
En fait, il y a eu à la fin de la guerre froide un changement de stratégie, un changement notamment dans les concepts stratégiques, avec notamment l'adoption d'une définition beaucoup plus large de la sécurité, une définition plus large de la sécurité qui inclut des nouveaux risques comme le terrorisme, les changements climatiques, les conflits interethniques, le cyber. Et donc évidemment, l'OTAN en adoptant cette nouvelle définition plus large de la sécurité, devait changer sa structure. Et donc, on a eu notamment une diminution du nombre de commandements de l'OTAN et une diminution, enfin, un accent moins fort, disons, sur le stationnement des troupes ou la nécessité d'avoir des bases, et plutôt de développer justement des forces de réaction rapide, facilement mobilisables, facilement déployables, qui semblaient correspondre beaucoup mieux à cette nouvelle définition des risques adoptés au courant des années 90-2000. Cela dit, on revient un peu aussi là-dessus, puisque avec le suite au sommet de Varsovie en 2016 et la mise en place d'une présence avancée, ce qu'on appelle la présence avancée renforcée en Pologne et dans les pays baltes, on a un retour à la défense territoriale, on a un retour finalement aux troupes qui doivent être sur place, hein, même si ce sont peu de troupes et sur une base tournante. On a un retour finalement aussi à cette défense territoriale qui avait été un peu marginalisée à la fin des années 90 et dans les années 2000.
Pierre Morcos, donc sur cette évolution, sur cette réorientation, disons, des capacités militaires de l'Alliance Atlantique.
Non, je pense que Amélie Zima a très bien décrit cette évolution, et je veux juste simplement rajouter qu'il y a en parallèle une autre évolution notable, c'est celle d'un rapprochement de la France vers l'OTAN. Alors que la France avait quitté le commandement intégré de l'OTAN en 1966, dans l'après-guerre froide, la France va se rapprocher des structures militaires de l'organisation, notamment à la faveur des conflits dans les Balkans. Le chef d'état-major français va participer au comité militaire, notre ministre de la Défense va également assister aux réunions pour suivre ces opérations. La France d'ailleurs contribue à ces opérations-là. Et la France va naturellement participer aux conflits en Afghanistan, et tout cela va aboutir à la réintégration de la France au commandement intégré en 2009, lors du sommet de Strasbourg-Kehl, quelques années après l'élection du président Sarkozy.
Mais alors, c'est justement peut-être le bon moment pour commencer à entrer un peu dans le fonctionnement de l'organisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le commandement intégré de l'OTAN? C'est-à-dire, on sait que, alors, du point de vue militaire, ça a fait un très beau poste pour un général français, c'est ce qui n'est pas rien, d'ailleurs, dans des logiques organisationnelles. Mais quel est... Qu'est-ce que ça a changé très fonctionnellement, puisqu'on voit bien que ça n'a pas empêché la France et les États-Unis d'interagir, par exemple, au moment de l'invasion de l'Afghanistan. Donc, ça n'empêchait pas la France de très bien fonctionner à l'intérieur de l'OTAN. Qu'est-ce que ça a rajouté, si ce n'est un symbole, ce qui n'est pas rien, mais qu'est-ce que ça a rajouté, disons, fonctionnellement ?
Sur le plan fonctionnel, ça a permis à la France d'être vraiment pleinement intégrée à la planification, à la conduite des opérations au sein de l'OTAN, et donc d'avoir un regard et un droit de décision beaucoup plus étroit. Ça permet également à des officiers français de réintégrer la structure et d'avoir une influence également dans le processus de décision militaire. Mais comme vous l'indiquiez, il y a également une dimension symbolique qui n'est pas négligeable. La France, lorsqu'elle était en dehors des structures militaires, était souvent accusée de vouloir fragiliser l'OTAN au profit d'un contre-projet qui était celui d'une Europe de la défense au sein de la construction européenne. Et cette contradiction fragilisait en fait notre projet européen. Et le fait que la France réintègre les structures militaires de l'OTAN permettait en tout cas de régler cette contradiction et de démontrer à nos partenaires qu'il y avait une cohérence entre notre projet européen et l'organisation de l'Atlantique Nord.
Oui, c'est en quelque sorte en réintégrant le commandement intégré, la France apparaissait moins menaçante avec son projet de défense européenne. C'était plus un contre-projet, c'était un truc éventuellement complémentaire. Évidemment, on aura l'occasion de revenir sur cette complémentarité. Amélie Zima ?
Oui, juste pour ajouter un point sur la réintégration de la France dans le commandement intégré. En fait, il y avait déjà eu des tentatives avant celle du président Sarkozy en 2009. Il y a eu une tentative par le président Chirac au milieu des années 90. Et en fait, cette tentative a été avortée parce que le président Chirac ne voulait pas que la France rentre dans le commandement intégré si elle n'obtenait pas suffisamment de postes de commandement de l'OTAN. Et la France voulait notamment obtenir des postes commandement sud, ce qu'on appelle l'AFSAUS. Et comme ça n'a pas été obtenu, la France n'est pas rentrée parce qu'elle estimait que son statut de puissance, grande puissance nucléaire militaire, signifiait que le retour dans l'OTAN devait permettre l'obtention de ce poste. Et en 2009, ce qu'a obtenu par contre la France, c'est le poste de SACTI, donc c'est le commandement stratégique transformation, qui est aux États-Unis à Norfolk, et qui est donc depuis 2009 occupé par un officier général français.
On peut mentionner d'ailleurs qu'on a appris très récemment que le chef d'état-major de l'armée de l'air, donc le général Lavigne, prenait ce poste, mais ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça indique aussi un peu la hiérarchie quand même. C'est un 5 étoiles qui le prend, ce poste. Ça montre l'importance que ça a et le désir que certains ont donc apparemment d'aller à Norfolk aux États-Unis. Alors on peut ajouter, on reviendra évidemment sur les logiques organisationnelles, parce que c'est très important, mais si on revient un petit peu sur les années 90 et ensuite, disons un indice du fait que l'OTAN ne devient pas caduque avec la chute du mur, avec la chute du bloc soviétique, c'est que il y a un attrait manifeste de l'OTAN, puisque dans les années 90 puis 2000, on voit une augmentation très notable du nombre de membres. Alors je vais rappeler juste par acquis de conscience maintenant qu'il y avait 12 membres à l'origine: Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. Puis 4 additions pendant la guerre froide: Grèce et Turquie en 52, Allemagne en 55 et Espagne en 82. Mais après, donc avec la fin de la guerre froide, le rythme s'accélère. Ça commence avec la RDA au moment de la réunification de l'Allemagne. Mais ensuite, comme je le disais, ça s'accélère, ça continue vers l'Est et vers les pays de l'ex-bloc soviétique, puisqu'on est aujourd'hui à 30 membres, dont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, et aussi notamment des pays qui ont une frontière directe avec la Russie, comme les pays baltes ou la Norvège, même si la Norvège, évidemment, ça fait plus longtemps. Donc on a quasiment doublé le nombre de membres de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Et on sait que c'est un sujet qui est encore contentieux aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet d'histoire, puisqu'on voit régulièrement des diplomates se chamailler, disons, sur la question des garanties qui auraient été données ou pas à la Russie au moment de l'effondrement de l'URSS, sur quel pays on pourrait intégrer ou pas à l'OTAN. Mais disons, commençons par là. Qu'est-ce que vont chercher tous ces pays concrètement dans l'adhésion à l'OTAN? Et puis, la deuxième partie de la question, c'est évidemment, à quel moment est-ce que ça commence ou est-ce que ça recommence à poser des problèmes à la Russie, toute cette agrégation de pays, disons, d'Europe centrale et orientale à l'OTAN? Amélie Zima?
Alors, effectivement, la politique d'élargissement est une politique très importante de l'OTAN, et c'est une politique qui prouve son attractivité, hein, puisqu'on a constamment des nouveaux membres qui veulent rejoindre l'organisation, qui veulent la rejoindre parce que c'est une organisation qui apporte la sécurité, la stabilité. On voit l'argumentaire des pays candidats est très clair là-dessus. L'OTAN donne de la hard security, et donc elle protège, et elle protège notamment contre la Russie, pour ne pas la nommer. Alors, ce qui est intéressant à noter pour la politique d'élargissement, c'est que c'est une politique qui a été entièrement refondée dans les années 90. Les logiques d'élargissement pendant la guerre froide ne correspondent pas du tout à celles qui ont lieu pendant les années 90. Dans les années 90, l'OTAN rompt avec ses pratiques et elle fabrique un tout nouveau processus d'adhésion. Elle élabore un acquis, une sorte d'acquis communautaire, mais à la sauce OTAN, hein, en 95. Les États qui rentrent dans l'OTAN, et ça je pense que ça va être intéressant aussi de développer par la suite, doivent respecter les valeurs libérales et démocratiques. Ils ne doivent pas importer de conflits au sein de l'organisation, ils ne doivent pas créer de divisions en Europe. Et puis ils doivent participer aux missions hors zone, ce genre de choses. Et en fait, ce mouvement qu'a l'OTAN dans les années 90 de durcir ses critères d'adhésion, c'est pas spécifique à l'OTAN, toutes les organisations vont le faire. Hein. L'Union européenne le fait aussi avec les critères de Copenhague notamment. Et on crée des conditions d'adhésion en fait qui excèdent largement la lettre des traités et qui rendent en fait les adhésions beaucoup plus difficiles. Alors... comme vous l'avez dit, il y a plusieurs vagues. Il y a une vague de 99 avec trois pays d'Europe centrale. Après, on a une vague qui est en 2004 plus vers les anciens pays de l'Union soviétique. Et puis, on a une vague maintenant qui est plus vers les Balkans. Et donc, le rapport avec la Russie, en fait, le problème, c'est que l'OTAN gère en fait deux politiques antagonistes. C'est-à-dire que d'une part, elle a cherché à nouer une relation de partenariat avec la Russie dans les années 90. On va peut-être en revenir plus en détail dessus. Et puis, par ailleurs, elle veut s'élargir. Et en fait, la Russie a toujours vu avec défiance les élargissements de l'OTAN, celui de 99 déjà, celui de 2004 aussi, mais disons que le contexte politique était plus favorable, et notamment au début des années 2000, il y avait une convergence de points de vue sur la guerre contre le terrorisme. Le gouvernement russe avait requalifié le conflit tchétchène en conflit contre le terrorisme, et donc ça avait un peu facilité finalement ces adhésions, d'autant plus que la Russie en parallèle avait obtenu un statut particulier, hein, via l'acte fondateur OTAN Russie, via la création d'un conseil de partenariat particulier qui devait reconnaître son statut politique et stratégique important. Et donc la rupture, elle intervient plus tard, et elle intervient en fait en 2008 avec la guerre en Géorgie, entre l'OTAN et la Russie.
De fait, c'est effectivement ça le gros sujet qui va finir par remonter, puisqu'il y a évidemment la guerre contre le terrorisme, dont l'OTAN est un des acteurs, mais c'est pas le seul, puisque ça intéresse quand même énormément des pays du monde. Mais le gros sujet qui va revenir sur le devant de la table, ça va être l'antagonisme avec la Russie, notamment donc depuis la séquence de 2008 et la guerre en Géorgie, mais surtout 2013 et l'annexion de la Crimée et donc l'occupation du Donbass en Ukraine. Alors, on peut noter, vous avez commencé à y faire référence, à Melisima, que ça s'inscrit quand même dans un cadre qui est celui de l'acte fondateur OTAN-Russie de 97, qui est censé cadrer les relations et très précisément éviter ce genre de choses, c'est-à-dire ce genre de conflit, mais c'est un acte qui n'est pas contraignant, donc ça a ses limites. Donc voilà, comment est-ce que l'OTAN fait face en quelque sorte à cette remontée des tensions? Et au fond, est-ce que la structure dont on a vu qu'elle a quand même pas mal évolué avec la fin de la guerre froide est encore capable de faire face à ce genre de conflit, au fait que y a la Russie qu'on regarde droit dans les yeux et qui provoque des frictions sur un certain nombre de lignes de tension, quoi. Est-ce que la structure otanienne est encore capable de gérer cet affrontement, pas bloc contre bloc, mais en tout cas avec un grand antagoniste, comme ça a pu être le cas, évidemment, avant, pendant la guerre froide? Pierre Morcos.
Ce qui est vrai, c'est que l'invasion de la Crimée en 2014 a été véritablement un électrochoc pour l'ensemble des alliés, en particulier pour les pays baltes et la Pologne, et une prise de conscience que l'OTAN n'était pas forcément outillée, comme vous l'indiquiez, pour faire face à cette menace-là et à jouer son rôle traditionnel de défense collective. Et donc on a observé à partir de 2014 une véritable réorientation des efforts de l'OTAN vers son cœur de métier, celui d'une posture de militaire défensive et dissuasive à l'égard de la Russie. Ça s'est traduit par de nombreuses choses. La première, c'est évoqué par Amenizima, c'est l'envoi dans ces pays de forces de réassurance, les présences avancées renforcées. Concrètement, ce sont des bataillons multinationaux de 1000 soldats avec différentes nations cadres qui sont déployés donc dans les trois pays baltes et la Pologne et qui ont une fonction vraiment de marquage de la solidarité de l'ensemble des alliés à l'égard de ces pays et une fonction plus précise de ce qu'on appelle de trip wire, c'est-à-dire de fil piège, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque russe contre ces pays, ça reviendrait à attaquer en fait les forces armées des nations participant à ces bataillons-là, et ça enclencherait de manière encore plus naturelle une réponse collective à cette agression. Au-delà de ça...
En gros, c'est un système qui permet que n'arrive pas dans tous ces pays-là exactement ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire, voilà, si on avait mis des troupes otaniennes à la frontière de l'Ukraine au moment de l'invasion du Donbass, ça aurait probablement pas pu se passer comme ça, parce que forcément, il y aurait eu des troupes otaniennes sur le chemin des troupes russes ou pseudo-russes, enfin, on va pas revenir là-dessus. Et donc, ça aurait déclenché nécessairement, en quelque sorte, le big stick de l'OTAN et de ses capacités de réaction, quoi.
Oui, même si la différence fondamentale, c'est que l'Ukraine était bien sûr pas membre de l'OTAN, et donc les logiques juridiques et militaires sont un peu différentes.
Non, mais on peut en parler une seconde d'ailleurs, parce que ça renvoie aussi peut-être à une question sous-jacente là-dedans, c'est qu'on a dit beaucoup qu'une des raisons pour cette offensive russe vis-à-vis de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine était quand même en négociation pour intégrer l'OTAN, et que c'était peut-être ça la ligne rouge à pas franchir. De la même manière, d'ailleurs, on peut noter qu'il y a aussi eu un partenariat avec la Géorgie, entre qui la Russie a aussi fait une guerre. Donc c'est peut-être un indice que, il y a eu un moment où la Russie a arrêté de considérer ça comme de la belle et bonne coopération multilatérale et a considéré ça comme une vraie menace stratégique quand ça se rapprochait trop de ses frontières. Amézima ?
Oui, concernant... Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Marcos sur l'importance d'une multinationale. C'est ça, c'est vraiment un point fondamental vraiment pour expliquer l'importance de cette présence avancée renforcée. Parce qu'effectivement, comme Pierre Marcos l'a dit, c'est des bataillons de 1000 hommes. Donc c'est pas une présence extrêmement importante numériquement parlant. Mais d'ailleurs, les gouvernements des pays baltes et de la Pologne savent très bien que dans l'absolu, ça va pas stopper une invasion. Mais l'idée, c'est que justement les soldats, pour ne pas les nommer encore russes, s'ils rentrent sur les territoires de ces pays-là, ils ne vont pas se retrouver face à des Estoniens ou à des Lituaniens, mais ils vont se retrouver face à des Américains, des Canadiens. Donc effectivement, la dissuasion, elle se joue là, en fait. Elle se joue face au fait qu'on a vraiment tous les membres de l'OTAN qui sont engagés. Et concernant la Géorgie et l'Ukraine, alors, ils ont un statut très particulier vis-à-vis de l'OTAN. L'OTAN a des commissions bilatérales de partenariat avec ces deux pays-là. Ces deux pays-là ont vu leur inspiration atlantique reconnue au sommet de Bucarest en 2008, donc ils ont potentiellement vocation à rentrer dans l'OTAN, mais en fait leur adhésion, elle est largement improbable. Elle est largement improbable parce que ce sont des pays qui ne contrôlent pas tout leur territoire. Suite à la guerre russo-géorgienne de 2008, suite à l'annexion illégale de la Crimée en 2014 par la Russie, suite à la guerre dans le Donbass. Et donc, comme il ne faut pas exporter des conflits au sein de l'OTAN, eh bien ces pays-là, en fait, par ces conflits gelés, en fait, ne peuvent pas réellement rentrer dans l'organisation. On a une tournée en ce moment de lobbying...
Dans une certaine mesure, ça veut dire que donc c'est triste à dire, mais ces coups-là ont réussi si l'objectif, c'était que la Géorgie et l'Ukraine ne rentrent jamais dans l'OTAN.
Alors, il y a eu des discussions éventuellement sur le fait que les pays pourraient rentrer et que la garantie de l'article 5 de l'OTAN ne s'appliquerait pas sur les territoires occupés par forces russes.
L'article 5, rappelons que c'est l'article d'assistance mutuelle, c'est que si un pays est attaqué, tous sont attaqués et c'est la défense collective en quelque sorte.
Voilà, mais en fait l'OTAN refuse ce genre d'arrangement parce qu'on est soit un allié de plein droit avec toutes les garanties, soit on ne l'est pas. Et on a une tournée actuelle du président ukrainien Zelensky, il fait énormément d'activisme parce qu'en fait son but est vraiment là d'obtenir quelque chose au sommet de l'OTAN qui aura lieu dans quelques jours. Et notamment ses alliés de Lituanie ont demandé à ce que l'Ukraine rentre dans le programme du MAP. Donc le MAP, c'est le plan d'action pour l'adhésion, et c'est donc l'outil de préadhésion à l'OTAN. Donc là, il y a une sorte de lobbying qui se met en place pour que l'Ukraine rentre dans un chemin de préadhésion, mais ça reste pour l'instant fort peu probable.
Mais alors, pour revenir peut-être juste un instant sur ce qu'on disait de cette éventuelle inadéquation de l'OTAN, enfin en tout cas de la structure, de la manière dont elle a évolué, dont les capacités ont évolué depuis les années 90 face à une Russie qui reviendrait à l'offensive sur la frontière orientale de l'OTAN. Ça pose la question de ce qu'on appelle les concepts stratégiques, c'est-à-dire ces espèces de grosses doctrines. Enfin, je ne sais pas comment on peut. Vous nous direz d'ailleurs comment les qualifier exactement, mais c'est une sorte de réflexion collective, c'est une sorte de vision stratégique de l'Alliance. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que. Alors, elle a été un peu réactualisée, mais le dernier concept stratégique, il date de 2010. Donc, avant, évidemment, la remontée des tensions avec la Russie autour de l'Ukraine, avant plein de choses. Donc, et ça pose aussi, ça permet peut-être d'entrer aussi dans la question de la gouvernance de l'OTAN, parce que c'est pas si facile que ça de refaire un concept stratégique, parce que l'OTAN c'est quand même une grosse machine, et voilà, il faut négocier pendant longtemps avant d'arriver à quelque chose. Pierre Marcos ?
Les concepts stratégiques sont en effet des documents importants qu'on pourrait comparer à une forme de livre blanc pour l'Alliance. Ce sont des documents qui. Reflètent le consensus des alliés sur leur perception de l'environnement stratégique et surtout définissent les grandes missions de l'organisation. Et le concept de 2010 définit trois grandes missions pour l'OTAN, la défense collective tout d'abord, mais aussi la gestion de crise et la sécurité coopérative. Et le fait que c'est une égale importance accordée à ces deux derniers piliers montre, comme on l'indiquait, cette phase un peu expéditionnaire de l'OTAN dans l'après-guerre froide. Aujourd'hui, en effet, se pose la question d'une actualisation de ce concept stratégique, et ça sera certainement une décision qui sera prise par les chefs d'État lors du sommet de la semaine prochaine, parce qu'on constate qu'en effet, il ne reflète plus trop fidèlement l'état de l'environnement stratégique. La Russie est présentée dans ce concept comme un potentiel partenaire stratégique pour l'organisation. D'autres acteurs ne sont pas mentionnés, comme la Chine. Et donc, il y a en effet l'intérêt de renouveler, réactualiser ce document, qui comporte des risques, puisque c'est en effet un processus qui doit être acté par l'ensemble des États, mais qui en soi a un intérêt, car il va forcer les alliés à se mettre autour de la table et de se mettre d'accord sur leur perception de la menace. Et donc ça sera un exercice qui va tester en quelque sorte la cohésion politique des alliés.
Amélie Sima ?
Oui, ce qu'on peut rajouter sur la façon de faire des concepts stratégiques, c'est que depuis la fin de la guerre froide, en fait, on a un effort de transparence de l'OTAN dans la façon dont ces concepts sont élaborés, avec l'appel, par exemple, à des groupes de sages ou des groupes d'experts. Hein, c'était notamment
c'est-à-dire
le cas pour le.
Pendant la guerre froide, c'était la grande stratégie bien secrète qu'il fallait pas divulguer. Et désormais, on peut publiciser un peu ce qu'on pense.
Il y a beaucoup plus
de.
Il y a beaucoup, enfin, bon, on ne publicise pas tout ce qui est dit et pensé au sein de l'OTAN, mais disons qu'il y a un effort de transparence dans la rédaction des concepts, avec l'appel à des civils, avec l'appel à des groupes d'experts. C'était déjà le cas, justement, pour le concept de 2010. Là, également, on a eu, fin 2020 aussi, la publication d'un rapport qui avait été piloté par l'ancien ministre allemand de la Défense, Thomas de Maizière, sur les orientations que devrait prendre l'Alliance, de type renforcer la concertation entre alliés, d'insister sur les valeurs communes. Éventuellement, puisque l'OTAN s'occupe maintenant de terrorisme, pourquoi ne pas faire aussi des réunions des ministres de l'Intérieur de l'OTAN pour discuter de ces questions-là ? Et donc l'idée de ce rapport piloté par Thomas de Maizière, justement, d'amorcer la réflexion sur ce nouveau concept stratégique. Là où officiellement le dernier concept stratégique, c'est celui de Lisbonne. Certains analystes estiment cependant que les conclusions du sommet de Varsovie en 2016 sont tellement importantes et ont tellement changé en fait la stratégie de l'OTAN qu'en fait le communiqué final du sommet de Varsovie, qui donne donc un retour à la défense territoriale, serait une sorte de concept stratégique par défaut. Puisque finalement on y voit la diminution de l'importance du hors-zone, donc de l'expéditionnaire, le retour à la défense territoriale, et qui montre de nouveau l'importance de la validité de l'article 5. Et effectivement, comme le disait Pierre Marcos, la redéfinition d'un concept stratégique, ça entraîne des tensions. Parce que c'est là qu'on voit justement que les intérêts des États membres ne sont pas nécessairement les mêmes, hein, entre ceux qui veulent une OTAN 360, attentif aux défis de l'Est, mais aussi aux défis du Sud, hein, c'est-à-dire le terrorisme et l'immigration, et ceux qui voudraient donc que l'OTAN se ressente plutôt sur son cœur de métier, donc la défense territoriale.
Ten years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread, Then NATO went on guard and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. We live again in peace and strength behind the NATO shield.
On voit que donc il y a un certain nombre de défis externes qui sont stratégiques, mais il faut maintenant aborder les difficultés internes qui sont très réelles, elles aussi. Alors, il y a des questions politiques, ça c'est sûr, on va en parler, il y a des États membres qui font des choses un peu offensives, et c'est important. Mais commençons peut-être par le moins glamour, mais en même temps qui revient très régulièrement sur la table, ce sont les questions budgétaires, ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau. On sait que c'est une pomme de discorde récurrente avec les États-Unis qui veulent que les autres pays investissent plus. Le chiffre un peu fétichisé, c'est l'objectif que chacun des pays consacre 2% de son PIB aux capacités militaires, disons. C'était notamment le cas particulièrement avec Donald Trump qui a déclaré que l'alliance était obsolète, qui a même traité l'Allemagne de délinquant, ce qui faudrait peut-être mieux traduire par fraudeur que par délinquant. Mais en tout cas, l'idée qu'ils ne paieraient pas leur part de la contrainte. Alors ça, c'était Trump et la subtilité oratoire qu'on lui connaît, mais ça n'a pas commencé avec lui et ça ne s'arrêtera pas après, même si beaucoup est aussi écrit pour dire que bon, le fait de se focaliser sur un chiffre comme ça, ça n'a pas grand sens du point de vue des capacités militaires. Mais donc, est-ce qu'on peut faire un sort à cette idée, pas d'un point de vue politique évidemment, puisque ça c'est évidemment à voir et à négocier, mais en tout cas d'un point de vue un peu substantiel? Est-ce qu'il est vrai que les pays membres de l'OTAN dépensent trop peu? Et si oui, jusqu'à quel point est-ce que c'est soutenable à l'intérieur d'une organisation avec de la cohésion interne, quoi? Pierre Marcos?
Comme vous l'indiquiez, en effet, c'est une question qui remonte bien au-delà de la seule administration Trump. Les différentes administrations américaines ont toujours demandé aux Européens à faire davantage en matière de défense. Et c'était une requête qui était tout à fait légitime. Les Européens ont significativement réduit leur budget de défense tout d'abord à l'issue de la guerre froide grâce au...
Mais on peut dire que pendant la guerre froide, l'objectif plus ou moins théorique c'était 3% pour tout le monde, que bon, bah, c'était la fin de la guerre froide, le monde est en paix, c'est formidable, donc on fait sauter cette barrière et il semblerait qu'il y a un paquet de pays membres de l'Alliance qui auraient un peu poussé le bouchon un peu loin, disons.
Oui, tout à fait, on parle de dividendes de la paix qui auraient justifié ces baisses. Et ensuite, surtout, il y a eu la crise financière de 2008 et économique de 2010 qui ont conduit les Européens à accélérer ces diminutions. Et donc il y avait vraiment une situation assez alarmante de budget très bas et d'armées sous-équipées. Et donc la requête américaine était légitime et la France finalement était plutôt en soutien à cette demande-là. La France voulait avoir des partenaires européens crédibles sur le plan militaire. Sous l'administration Trump, ce qui a changé, bien entendu, c'est le ton employé qui...
c'est l'euphémisme de l'année.
Mais qui crée de véritables tensions et divisions au quotidien au sein de l'Alliance, et donc c'était presque contre-productif. Et puis le deuxième problème, c'est que l'administration Trump se focalisait quasi exclusivement sur l'objectif des 2%, voire même confondait budget de défense et budget de la seule organisation de l'Atlantique Nord, alors même que le partage du fardeau, en réalité, va bien au-delà. En effet, il s'agit d'augmenter les budgets de défense, mais il s'agit aussi d'investir davantage dans les capacités militaires. Et d'ailleurs, il y a un deuxième objectif qui est assez peu connu, qui a été acté en 2014, qui est de consacrer 20% des budgets de la défense aux capacités militaires. Et la France, par exemple, est autour des 25%, mais ce n'est pas le cas des autres alliés. Et un troisième...
Parce que rappelons qu'il n'y a pas que les capacités militaires, il y a aussi plein de choses, il y a aussi des investissements beaucoup plus vagues, il y a aussi les pensions, il y a plein de choses qui entrent dans un budget militaire qui ne sont pas forcément directement mobilisables en cas de conflit ou en cas de besoin, qui explique aussi pourquoi l'objectif, disons, de 2% d'un PIB est loin de... Enfin bon, c'est peut-être un indice, hein, c'est... Peut-être pour ça aussi que c'était intéressant à un moment d'utiliser ça. Mais ça, évidemment que ça ne suffit pas à exprimer ce qu'un pays est capable de faire, notamment au sein d'une alliance, quand elle est mise à quand on le sollicite, quoi.
Tout à fait. Et le troisième volet que je voulais évoquer, c'était le volet opérationnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des armées équipées, il faut aussi les employer en opération. Et la France veille à ce que les alliés aussi contribuent davantage au partage du fardeau sur le terrain. On espère qu'avec l'administration Biden, on aura un discours plus apaisé sur ce sujet et puis une vision plus large de ces questions. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2015, les Européens ont réaugmenté leur budget de défense de manière assez significative et de manière qu'on... chaque année, les budgets ont été augmentés par l'ensemble des alliés. On a encore une incertitude s'agissant de l'impact potentiel de la pandémie et du ralentissement de l'économie mondiale sur ces budgets-là, mais on a des premiers indicateurs plutôt rassurants. La France, le Royaume-Uni ou la Suède ont récemment annoncé qu'ils allaient maintenir, voire accélérer leurs efforts. Donc du coup, on est plutôt dans une dynamique positive. Voilà, c'est plutôt rassurant et je pense que l'administration Biden va entretenir cette tendance.
Amélie Zima, sur cette pomme de discorde de plusieurs décennies qu'est le burden sharing.
Oui, c'est un serpent de mer de la relation transatlantique. Déjà pendant la guerre froide, le Sénat américain faisait pression pour réduire les dépenses militaires américaines consacrées à l'Europe. Et donc effectivement, pendant la présidence Trump, il a posé le sujet sur la table de façon juste plus brutale que ses prédécesseurs, en fait. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est qu'en fait, la part américaine dans l'OTAN va se réduire sur la période 2021-2024. Il y a un accord qui est fait pour en fait, réduire les dépenses, la part américaine de 20 à 16%, parce que justement, pour que les autres alliés prennent leur part du fardeau. Mais ce qu'on constate aussi avec le Brexit, c'est que 80% des forces de l'OTAN vont en fait être des forces hors Union européenne. Donc ça peut, d'une certaine façon aussi, accroître en fait le clivage entre les alliés européens et les alliés non européens, puisqu'on aura 80% des forces par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Turquie et la Norvège. Donc une sorte de déséquilibre qui se fait encore au sein de l'Alliance. Et concernant l'effet du Covid, ce qu'on voit sur certains alliés, notamment par exemple moi qui suis en Pologne, eh bien on a une augmentation des dépenses de défense. On est déjà autour de 2% et l'objectif est de passer à 2,5%. Donc certains alliés continuent finalement les investissements dans la défense.
Ouais, alors donc il y a cette question budgétaire qui évolue doucement, mais qui évolue, enfin, et qui de toute façon disparaîtra pas. Tout le monde voudra toujours que les alliés, disons, mineurs mettent plus d'argent et chacun cherchera dans une certaine mesure à baisser ses budgets. Mais donc il y a aussi des questions de dissension interne qui sont très nettes. Alors notamment, c'est le moment de parler de la Turquie. Ça fait un moment qu'il y a des tensions, on peut le rappeler. Alors on parle par exemple souvent de la question du F-35 dans ce podcast, souvent pour faire des blagues sur le fait qu'il ne marche pas, mais on peut rappeler que ça a été peut-être un des indices, puisque les États-Unis ont refusé d'en vendre à la Turquie, qui est pourtant vraiment l'un des piliers stratégiques de l'organisation, simplement parce qu'ils achetaient des systèmes anti-aériens à la Russie et qu'il était hors de question que les deux systèmes soient interopérés d'une manière ou d'une autre. Mais plus récemment, il y a eu donc l'invasion d'une partie du Kurdistan syrien en 2019, ce qui a inspiré les commentaires d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'organisation. Plus régulièrement, on peut dire qu'il y a des actes relativement hostiles en Méditerranée orientale. Alors, bon, entre la Turquie et la Grèce, ça, c'est pas tout à fait nouveau. Mais même avec des navires turcs qui font vis-à-vis des navires français, ce que font, on appelle ça des illuminations radar. C'est-à-dire quand il y a un navire français qui passe à proximité, ils accrochent un radar comme pour un tir de missile. C'est quelque chose qui se fait depuis des décennies par les navires russes, mais qu'un autre pays de l'OTAN le fasse, c'est un peu baroque, disons ça. Donc, ça pose la question très nette de, à travers le révélateur qu'est la Turquie, dans une certaine mesure, de ce qu'est l'Alliance aujourd'hui, de sa souplesse, de jusqu'où elle peut s'étirer, et de jusqu'où on peut tolérer une autonomie stratégique, diplomatique, voire militaire, et même des actes relativement hostiles quand même, entre membres d'une organisation militaire intégrée. Pierre Marcos ?
Moi, je pense que vous avez très bien fait le catalogue des récents actes de la Turquie qui étaient jugés en effet peu acceptables par la France et c'était révélateur finalement d'un véritable problème au sein de l'Alliance qui certes sur le plan militaire on l'a évoqué fonctionne plutôt bien mais sur le plan politique, fait face à de véritables défis. Et ça a conduit le président de la République de parler de mort cérébrale lors de son entretien avec The Economist à l'automne 2019, quelques semaines avant le dernier sommet de Londres. Et son constat, c'était véritablement ça, c'est que l'OTAN, sur le plan politique, en tant qu'alliance politique, faisait face à de nombreux dysfonctionnements, n'était pas en mesure de réguler le comportement de ses membres. Et donc ça a conduit à une véritable discussion assez franche entre les chefs d'État à Londres, qui ont décidé de lancer, on l'a déjà évoqué, mais ce processus d'adaptation de l'organisation, que l'on appelle maintenant OTAN 2030, qui a été conduit par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, tout le long de l'année de 2020, et qui a conduit notamment à ce rapport évoqué par Emma Lizima, co-rédigé par des experts de haut niveau, notamment co-présidé par Thomas Desmazières et l'Américain Wes Mitchell. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, publié en décembre 2020, met l'accent sur ces tensions internes, sur le volet politique de l'Alliance. Et c'est intéressant, parce qu'on aurait pu s'attendre à un rapport évoquant surtout les défis externes que nous avons évoqués précédemment, mais une grande partie du rapport indique que l'OTAN fait face à un manque de cohésion politique, et que c'est un véritable facteur de fragilité, et ça peut conduire finalement l'Alliance à ne pas être en mesure de fonctionner et d'être efficace. Juste citer un exemple qui est assez révélateur de cette interaction entre manque de cohésion interne et incapacité à être efficace sur le plan extérieur, c'est la décision par la Turquie à un moment de bloquer les plans de défense de la Pologne et des trois pays baltes, au motif que les alliés ne reconnaissaient pas le pays grec D, donc la branche armée du parti de l'Union démocratique kurde, comme une organisation terroriste. Donc c'est quelque chose finalement qui a conduit à une paralysie du cœur de métier de l'Alliance, qui est celui de la défense collective, parce que la Turquie abusait en quelque sorte de son droit de veto et paralysait de l'intérieur l'organisation.
Amélie Zima ?
Oui, tout à fait. La Turquie pose problème, mais ce qu'on remarque, c'est que le langage adopté, notamment par le secrétaire général de l'OTAN, et quand même, ou même par le président Biden récemment, reste extrêmement conciliant, je dirais, vis-à-vis de la Turquie. On a des éléments de langage qui insistent sur l'importance du lien avec la Turquie, qui insistent sur son ancrage dans l'OTAN. Et donc, on n'a pas finalement de volonté de sanctionner, même, je dirais, verbalement, ou de mentionner finalement des désaccords. Mais je dirais qu'au-delà de la Turquie, le problème de la cohérence interne de l'OTAN, il n'est pas que turc, hein, il vient aussi d'autres pays où on a des éléments autoritaires, hein, donc clairement, que ce soit la Hongrie ou que ce soit la Pologne. Après, il faut dire que l'OTAN n'a jamais été une communauté de valeurs démocratiques. Hein, je rappelle que le Portugal de Salazar était membre fondateur de l'OTAN. La Grèce des colonels était dans l'OTAN également, donc on n'a pas particulièrement eu d'insistance au cours de l'existence de l'OTAN sur ses valeurs démocratiques et libérales.
Mais alors qu'on peut préciser que c'est dedans quand même. Enfin, c'est
précisé,
théoriquement, l'OTAN, théoriquement, c'est quand même une alliance de pays qui croient à des valeurs démocratiques et libérales.
Complètement. Complètement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a eu à plusieurs moments de l'histoire de l'Alliance justement des pays qui ont eu des pratiques autoritaires et sans que l'Alliance ne fasse rien pour les sanctionner. Et ces pratiques autoritaires, elles ont des effets sur la cohérence politique interne, mais elles ont aussi des effets sur l'efficacité. Comme Pierre Morcos le disait, la Turquie voulait bloquer les plans de défense de la Pologne et des Pays-Baltes. La Turquie achète russe. En Pologne,
Turquie, par ailleurs, dans ce tournant autoritaire de Erdogan, a purgé massivement l'armée aussi.
Exactement. C'est quelque chose qui existe dans un autre pays, qui existe en Pologne. En Pologne, l'armée aussi a subi des purges massives, des limogeages massives, mais aussi des démissions d'officiers qui ne voulaient pas servir le gouvernement nationaliste conservateur qui est actuellement au pouvoir. La Pologne, pendant 6 mois, n'avait pas d'ambassadeur à l'OTAN. Donc finalement, ça peut affecter l'efficacité de l'Alliance même.
Mais alors, ça pose aussi la question de comment on ferait quelque chose par rapport à ça, parce que ça pose la question de la gouvernance, puisque on peut peut-être en dire un mot. C'est alors les décisions se prennent au consensus, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'unanimité, puisqu'on peut, on peut forcer certaines personnes à garder un silence pudique, ce qui permet de prendre des décisions quand même, mais c'est quand même un problème de gouvernance très réel, notamment s'il fallait sanctionner des membres de l'Alliance. Évidemment, elles auraient un droit, ils auraient un droit de veto. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des vraies dissensions internes? Comment est-ce qu'on peut essayer de réaffirmer une cohérence? Parce que c'est pas censé être les États-Unis qui décident de tout. C'est censé être quand même une alliance, quoi. Pierre Morcos.
En effet, l'organisation fonctionne en fonction du principe de consensus. Donc, chaque État a théoriquement une voix. Mais la réalité dans le fonctionnement quotidien de l'organisation, c'est que certains pays ont un poids politique plus élevé, naturellement les États-Unis, mais aussi la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Turquie. Et lorsqu'un État décide de bloquer une décision, il engage son capital politique. Et il fait face à une pression politique qui peut être extrêmement élevée. Et donc c'est toujours une capacité de... pour chaque pays d'engager son capital politique et être prêt à s'opposer concrètement aux États-Unis.
Et là, on voit bien que la Turquie, ça ne les empêche pas particulièrement de dormir. Mais d'ailleurs, pourquoi on peut poser la question de pourquoi sont-ils si importants et pourquoi sont-ils si conscients d'être importants qu'ils puissent faire énormément de choses qui paraissent totalement sortir de ce qu'un État membre peut se permettre et s'en sortir relativement indemne au sein de l'Alliance?
Alors, c'est un point stratégique important, hein. C'est l'accès aux mers chaudes, c'est le contrôle des détroits, donc déjà ça donne une importance à la Turquie non négligeable. Effectivement, ils se permettent des choses assez particulières sur le plan politique. On se rappelle qu'après l'élection contestée du président Loukachenko au Bélarus en 2020, il avait reçu la visite d'Erdogan. Donc voilà, des actions qui contredisent complètement les principes en soi de l'OTAN. Mais pour rebondir sur ce que disait Pierre Morcos sur le consensus... effectivement, la décision est prise au consensus au sein de l'OTAN, ce qui est différent du vote, ce qui est différent de l'unanimité. Ça permet de pas trop publiciser les conflits entre États membres, de pas montrer qui est pour ou contre, mais ça manque aussi de transparence, hein, parce qu'on ne sait pas finalement comment la décision est prise complètement au final. Pierre Morcos mentionnait aussi les États les plus importants, et c'est vrai qu'au sein de l'OTAN, on a des groupes informels comme ça qui se créent et qui participent de la prise de décision. Les quatre plus importants, c'est effectivement États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne, c'est ce qu'on appelle le Quad. Mais par exemple, les pays d'Europe centrale et orientale sont réunis aussi dans un groupe qu'on appelle le Bucarest 9, et qui est un groupe qui organise régulièrement des réunions publiques, pour le coup des sommets. Le dernier était en mai, avec la présence en distanciel du président américain et du secrétaire général de l'OTAN. Donc voilà, les pays essayent de s'organiser en groupe pour essayer de porter finalement leur position et, dans la construction du consensus.
Pierre Morcos ?
Peut-être pour revenir à la question de que pouvons-nous faire en réaction au comportement turc. En effet, la Turquie s'est permis beaucoup de choses ces dernières années, mais en partie parce que l'administration Trump avait un comportement assez ambivalent et n'osait pas forcément monter au front et critiquer Ankara, ce qui a un peu changé à la fin de l'administration Trump. Et le changement qu'on va certainement vivre avec l'administration Biden, c'est que l'administration Biden insiste beaucoup sur les valeurs démocratiques. C'est un accent fort de sa politique étrangère, y compris au sein de l'organisation. Il y a quelques jours, le président Biden a sorti un op-ed dans le Washington Post où, lorsqu'il a parlé de l'OTAN, il a insisté sur le fait que l'OTAN était une alliance basée sur des valeurs démocratiques communes. Et donc, si les États-Unis commencent à insister sur ce plan-là et à être beaucoup moins inflexibles, être inflexibles sur ces sujets-là, on peut anticiper peut-être un changement de comportement de la Turquie. Pour revenir sur l'exemple du blocage par la Turquie des plans de défense des Pays-Bas et de la Pologne, finalement Ankara a décidé de changer de position parce que la pression politique devenait trop forte. Et même si la Turquie est un membre indispensable de l'Alliance, et l'objectif n'est pas de rompre avec la Turquie naturellement, la Turquie également attache une importance assez significative à son appartenance à l'Alliance. Et donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Et donc la Turquie ne souhaite pas non plus rompre avec l'OTAN. Donc elle va toujours essayer de pousser plus loin sa stratégie un peu de confrontation, d'intimidation, mais jusqu'à un certain point, au point où il pourrait y avoir un risque de rupture. Et je pense que ce point de rupture va être beaucoup plus risqué pour la Turquie avec cette nouvelle administration.
Alors, on voit donc que c'est une alliance qui a clairement des soucis ou des défis à relever. Et de ce point de vue-là, j'aimerais qu'on parle maintenant une seconde des dynamiques françaises, proprement françaises, qui va nous amener à parler, on a déjà fait référence rapidement, mais de la défense européenne. Puisque, bon, il y a toujours clairement la tentation de se distancier plus ou moins d'une alliance qui donne pas entièrement satisfaction. Alors, on l'a dit, ça a été le cas pendant 40 ans avec le retrait du commandement intégré de l'OTAN, qui a pris fin en 2009. Mais aujourd'hui, la tentation, c'est peut-être plutôt d'accélérer sur le chemin de la défense européenne. Et il y a eu d'ailleurs une interview très remarquée de la ministre des Armées il y a quelques jours dans Politico, où elle disait que, bon, il fallait peut-être freiner un peu l'idée d'une augmentation des dépenses pour l'OTAN, d'un investissement dans l'OTAN, parce qu'on ne sait pas toujours où ça va. Alors je résume à très gros traits, mais voilà, l'argent qu'on donne à l'OTAN, on le contrôle au fond assez peu. Elle disait aussi qu'il fallait se méfier peut-être de ce que les États-Unis voulaient en faire, et qu'on n'avait pas forcément envie d'être pris dans leur montée des tensions face à la Chine via l'OTAN, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot de cette alternative ? Est-ce que c'en est vraiment une déjà ? L'idée qu'on pourrait avoir une défense européenne qui permettrait de diminuer la dépendance à l'OTAN, qui permettrait de construire quelque chose ? Parce que c'est l'alternative qu'on a souvent présentée. C'est l'idée que si on fait trop de défense européenne, ça va fâcher les États-Unis, ça va mettre en ébullition l'OTAN. Alors qu'en fait, peut-être que c'est pas si évident que ça. Hein. Peut-être que les États-Unis seraient aussi contents d'avoir un partenaire un peu plus constitué, disons, sur le front européen. Et puis aussi, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la flexibilité stratégique que ça permettrait ? Parce que bon, l'avantage de la défense européenne, c'est que c'est certes compliqué, mais au moins tout est à construire, et peut-être que c'est plus facile de faire une structure plus adaptée aux défis d'aujourd'hui qu'une alliance qui a plus d'un demi-siècle maintenant. Amélie Zima ?
Oui, alors la question de la défense européenne, en fait, vis-à-vis de l'OTAN, c'est une question qui date des années 90, en fait, puisque avant, c'est une question qui ne se posait pas pendant la guerre froide. Et donc c'est dans les années 90 que l'OTAN a commencé à nouer des liens avec l'Union européenne et que le problème donc de cette défense européenne ou de ce pilier européen de l'OTAN, ça dépend, il y a différents termes, a été envisagé. Et du côté de l'OTAN, il y a deux points importants qu'il faudrait mentionner. C'est que d'une part, il y a eu des accords qu'on appelle les accords de Berlin Plus, qui ont été signés à la fin des années 90. Et ces accords de Berlin Plus permettent en fait l'utilisation par les États membres de l'UE des moyens de planification de l'OTAN. Autre point important, dans la reconnaissance finalement de la volonté européenne d'avoir une sorte d'autonomie, c'était la création de ce qu'on appelle le poste des Saker. Alors le Saker, c'est le chef opérationnel de l'OTAN, qui est à Mons, et donc son adjoint est un Européen. Sauf que son adjoint européen, c'est toujours un Britannique. Donc, il y a un problème qui se pose, c'est que donc le Desaker est un Britannique, on est dans un environnement post-Brexit, est-ce que l'inspiration européenne au sein de l'OTAN peut être représentée par un Britannique ? On n'a pas de réponse à cela. Deuxième point, donc les accords de Berlin Plus, donc on permet aux États membres de l'UE d'utiliser des moyens de planification de l'OTAN. En fait, les États membres de l'UE ne les utilisent pas, ça a été utilisé qu'une seule fois pour l'opération Altea, et en fait, les États membres de l'UE préfèrent utiliser leurs propres moyens de planification, comme le QG du Mont-Valérien pour la France. Donc en fait, on a une sorte d'impasse entre les deux, impasse aussi qui est compliquée par la relation entre la Turquie et Chypre. Puisque pour des histoires de documents classifiés, ce genre de choses, hein, y a toujours des tensions entre les deux parties. Et puis il faut dire que du côté de l'OTAN actuellement, et notamment du côté du secrétaire général Stoltenberg, il n'y a pas de volonté réellement de faire avancer ce dossier de la défense européenne. Hein, Stoltenberg a déclaré que l'UE ne peut pas défendre l'Europe, hein, et que donc le lien transatlantique doit être préservé à tout prix. Donc en fait, on est dans une phase où finalement il faudrait repenser ce lien OTAN-UE et essayer d'envisager des nouvelles modalités de coopération, mais une sorte d'impasse à penser ce lien OTAN-UE.
On peut préciser par ailleurs que Stoltenberg est norvégien et que du coup c'est pas totalement hasard en termes d'inscription, disons, dans un pays qui est géographiquement en Europe mais pas dans l'UE. D'ailleurs, c'est peut-être pas totalement un hasard si c'est un Norvégien qui est là en ce moment, mais en tout cas, on peut supposer que ça n'allait pas forcément être le partisan le plus acharné de la construction d'une défense européenne. Pierre Marcos ?
C'est un sujet qui a fait l'objet pendant longtemps d'une contradiction, voire schizophrénie de la part des Américains, car dans un même temps, ils appellent les Européens à faire davantage en matière de défense, on l'a évoqué, mais sont très sceptiques quant à l'idée d'une d'une Europe de la défense. Et c'est cette fameuse doctrine dite des 3D qui avait été mise en avant par la secrétaire d'État américaine Albright en 1998, qui appelait les Européens à éviter toute duplication, découplage et discrimination lorsqu'ils construisaient une Europe de la défense. Et cette doctrine assez conservatrice...
Alors ça veut dire quoi ? Duplication, donc de ne pas faire la même chose que l'OTAN. Découplage, qu'est-ce que ce serait ?
Ça serait un découplage entre l'Union européenne et l'OTAN qui pourrait conduire à un découplage des intérêts de sécurité entre les Européens et les Américains. Et discrimination, c'est une crainte des Américains d'être exclus des initiatives européennes en matière de défense et qu'il y ait un moindre accès pour des États otaniens mais non membres de l'Union européenne. Et c'est une doctrine assez conservatrice qui a été défendue par toutes les autres administrations de manière assez virulente par l'ancienne administration. Et du coup, ça a conduit les Européens un peu à s'auto-censurer dans leur niveau d'ambition. Les initiatives européennes ont toujours été limitées en raison de cette crainte d'apparaître comme une concurrence à l'OTAN. Alors que vous avez employé le terme d'alternative, en réalité, le projet de défense européenne ne se conçoit pas comme une alternative à l'OTAN. Si on est réaliste, l'Union européenne ne sera jamais en capacité, en tout cas à court terme, de remplacer les capacités militaires de l'OTAN, la dissuasion apportée par les États-Unis, où il faudrait avoir une cible non pas de 2% mais de 4% du PIB pour nos budgets de la défense. Et donc l'idée, c'est que le projet de défense européenne se présente comme complémentaire de l'OTAN, comme visant à rééquilibrer les responsabilités au sein de l'Alliance. Et d'ailleurs, le dernier document stratégique français, la revue stratégique de 2017, qui a été adoptée peu de temps après l'élection du président Macron, présente bien les choses en disant « Pour nous, l'Europe de la défense, c'est deux choses. C'est l'Union européenne et l'OTAN. Et on ne peut pas dissocier ces deux piliers. Au risque sinon d'être irréaliste et d'accélérer une forme de découplage vis-à-vis des États-Unis. »
Ouais, en d'autres termes, c'est pas le parapluie stratégique ni nucléaire français qui va remplacer le parapluie nucléaire américain pour tous les pays de l'UE. Évidemment, la France n'en a pas les moyens et personne n'a envie d'ailleurs de voir si elle en a les moyens, puisque c'est voilà, il faut quand même la puissance et disons la masse américaine pour donner un sentiment de sécurité à tous ces pays européens. Alors, un dernier élément dont j'aimerais parler, mais parce que ça pose encore une fois la question des limites de l'Alliance et de sa plasticité, de jusqu'où elle peut aller, c'est le sujet qui monte, alors qui monte depuis longtemps, mais ça continue évidemment, c'est la Chine. On y a déjà fait allusion très rapidement. Mais bon, c'est clairement la préoccupation stratégique qui commence à obséder de plus en plus les États-Unis, et probablement qu'ils aimeraient que la plus grande alliance militaire du monde s'investisse un peu sur le sujet. En même temps, on peut dire qu'il y a un problème thématique et même presque étymologique, puisque la Chine, c'est quand même assez loin de l'Atlantique Nord, et donc des préoccupations directes d'un paquet des membres de l'OTAN, puis qui ont... Bon, disons la Russie beaucoup plus sous le nez, par exemple, que la Chine. Et donc ça interroge le propos, l'identité de l'OTAN, et même le fonctionnement interne et la capacité des États-Unis à imposer des sujets et des priorités, que de savoir donc, si ça va devenir un sujet otanien direct et central. Alors est-ce qu'on peut dire un mot des efforts, peut-être, qui sont faits par les États-Unis de mettre ça sur la table, et disons des réactions de ce que ça provoque de l'autre côté, du côté des pays membres. Pierre Marcos ?
Oui, alors, comme vous l'indiquez, ça a été pendant longtemps un non-sujet pour l'OTAN, essentiellement pour des raisons géographiques, mais aussi parce que la Chine, pendant longtemps, n'était pas perçue comme un adversaire ou un compétiteur, un rival pour les Européens ou les Américains. Le sujet est arrivé sur la table en 2019 à la demande de l'administration américaine et en particulier du secrétaire d'État Pompeo, qui avait une véritable obsession pour la question chinoise. Et qui a exigé à ce que les alliés vraiment s'engagent sur cette question. Et ça a conduit à la mention de la Chine pour la première fois dans un document public de l'OTAN lors de la déclaration du sommet de Londres en décembre 2019. Donc il y a une ligne qui évoque la Chine comme à la fois présentant des défis et des opportunités pour l'Alliance. Donc c'est un langage assez sibyllin, mais... qui montrait publiquement que la Chine entrait dans le paysage de l'OTAN. Alors en effet, la Chine n'est pas une menace militaire directe pour l'OTAN, mais là où les États-Unis ont quand même en quelque part raison, c'est que la Chine, son essor, peut poser des questions pour la sécurité euro-atlantique. Je citerai deux exemples. Le premier, c'est la présence accrue de la Chine dans les infrastructures critiques européennes, dans les nouvelles technologies, notamment la 5G, qui ont des implications de sécurité potentiellement fortes. Et l'autre sujet, c'est le rapprochement de plus en plus accru entre la Chine et la Russie. Vous l'avez évoqué avec Isabelle Facon récemment. Mais les deux pays ont noué un partenariat stratégique et ont conduit récemment des exercices navals en Méditerranée ou en mer Baltique. Donc il y a une légitimité à ce que l'OTAN au moins examine les implications militaires de l'essor de la Chine pour l'OTAN. Après, il y a de très nombreux risques dans cette nouvelle orientation. Le risque notamment d'estimer que la Chine est un adversaire, un ennemi militaire de l'organisation au même titre que la Russie, et ce qui pourrait conduire l'OTAN à orienter une partie de sa planification, voire à déployer des navires en Indo-Pacifique. Alors pour un Français, ça peut paraître un peu absurde, mais c'est un sujet qui est véritablement sur la table ici à Washington. Il y a de plus en plus de rapports qui appellent à ce que l'OTAN étende son champ d'action militaire sur le plan géographique et une véritable posture militaire à l'égard de la Chine. Et c'est tout à fait risqué, parce que, sauf preuve du contraire, la Chine n'est pas une menace militaire directe pour l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et comme vous l'avez indiqué, l'OTAN se concentre sur l'Europe et l'Atlantique Nord. Et en réalité, la Chine pose plutôt des défis dans un autre champ qui est le champ économique, technologique, un champ non militaire. Et donc, on peut s'interroger sur la valeur ajoutée de l'OTAN, sur ces questions non militaires. Et ça fait le lien avec le sujet précédent, qui est celui de la coopération avec l'Union européenne. En réalité, c'est davantage un sujet pour l'Union européenne, qui a les outils juridiques, financiers, pour faire face à ces questions-là. Et donc, quand l'OTAN va définir sa politique chinoise dans les prochains mois, il faudra intégrer ce facteur européen.
Amélie Zima.
Oui, comme le disait Pierre Marcos, c'est un sujet assez récent pour l'OTAN, hein, au sommet de Londres en 2019, dans le rapport des experts piloté par Thomas de Maizière, la Chine est également mentionnée, également effectivement mentionnée dans ces termes opportunité et défi à la fois.
Ce qui est bien, c'est qu'on peut dire ça de à peu près tous les sujets de la Terre.
Pas la Russie. La Russie, elle a
un
des
défi,
actions.
Une opportunité.
Voilà, et elle est agressive. Voilà, tandis que la Chine est à la fois un défi et une opportunité. Et en fait, l'activité de la Chine est quand même scrutée avec attention et avec précaution, parce qu'en fait, la crainte aussi, c'est que Pékin joue sur les divergences internes et les divergences politiques des membres de l'OTAN. Et qu'en fait, elle joue de ses divergences pour ses propres intérêts, pour les intérêts chinois. Et à ce titre, je pense qu'il y a un cas en Europe qui est assez intéressant, c'est le cas de la Hongrie. Pas pour des questions strictement défense, mais la Hongrie est un bon exemple pour voir justement la percée de l'influence chinoise. On se rappelle que la population hongroise est vaccinée avec les vaccins chinois, qui ne sont donc pas homologués par les agences européennes. Donc c'est un vecteur d'influence. Et puis également, l'influence chinoise passe par la création... par la volonté d'installer une université, hein, l'université de Fudan à Budapest, qui poserait des problèmes, puisqu'en fait, le coût de cette université, c'est 1,5 milliard d'euros, financé par le gouvernement hongrois sur emprunt chinois. Donc ça créerait une dépendance en plus financière du gouvernement hongrois vis-à-vis de la Chine. Et on se rappelle qu'il y a quelques années, le gouvernement hongrois avait expulsé l'université centre-européenne, qui était une université homologuée par les Américains et financée par le philanthrope américain George Soros, ennemi personnel de Viktor Orban. Donc on voit justement une sorte de tournant stratégique là aussi dans la position de la Hongrie vis-à-vis de la Chine et la façon dont finalement la Chine arrive aussi par des moyens non sécuritaires, non défense finalement, créer une zone d'influence au sein de la zone Europe et OTAN.
Oui, et le cas échéant de s'assurer au moins qu'il n'y aura pas consensus sur une éventuelle montée en puissance du sujet chinois au sein de l'organisation. Oh, Pierre Marcos ?
Juste un dernier mot sur la Chine, je trouve que c'est un cas assez révélateur des tensions de l'OTAN aujourd'hui, car lorsqu'on regarde l'environnement stratégique, il y a certes des menaces conventionnelles posées par la Russie, mais de plus en plus, l'OTAN fait face à des stratégies un peu hybrides en dessous du seuil du conflit armé de l'article 5, et l'OTAN a un peu du mal à adapter sa réponse à ces menaces de type non militaire. Lorsqu'on parle d'attaques cyber, de manipulation de l'information, de manipulation des systèmes de corruption. Et donc il y a toujours une tendance à l'OTAN d'avoir un rôle dans ces champs-là, économiques, politiques, sociaux. Et donc ça pose la question, comme j'évoquais, d'un risque de duplication de ce qui est fait par ailleurs à l'Union européenne.
Merci beaucoup, Amélie Zima et Pierre Morcos, pour ce tour d'horizon donc des sujets otaniens à quelques jours du sommet de Bruxelles qui commence lundi prochain, 14 juin. Je rappelle, Amélie Zima, que vous venez de publier un Que sais-je, très judicieusement intitulé L'OTAN, qui fait très efficacement le tour de la question. Et Pierre Morcos, on peut lire vos publications sur le site du CSIS notamment, où vous êtes actuellement détaché du Quai d'Orsay. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail à collimateur@tirsem.fr ou sur les réseaux sociaux de l'Institut. Et que notes et commentaires sont plus que bienvenus, notamment sur SoundCloud ou Apple Podcast. C'est intéressant et ça fait plaisir et ça aide par ailleurs à faire connaître l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.